Le rendez-vous. C'est l'heure du rendez-vous.
Vous direz, bon, c'est l'heure des rêveurs.
Quand un ou une artiste rencontre une ou un chercheur.
L'expérience, elle se fait toujours à la première personne. Pourquoi ? Parce qu'un sujet, et le sujet humain, n'est rien d'autre que ses propres expériences.
Et voilà, ça marche.
C'est la rencontre.
Comment ça arrive ? Est-ce que c'est une attaque douce, ronde, abrupte, raide ? L'entretien, est-ce qu'il est continu, discontinu ? Est-ce qu'il est granulaire ? Est-ce qu'il scintille ?
Mon travail, c'est essayer de trouver des manières de raconter le monde dans lequel on vit un peu autrement.
Avec Radio Pratique.
De la douceur avant toute chose.
Au TJP, Centre Dramatique National de Strasbourg, Grand Est.
Bonjour, bienvenue, nous sommes au plateau de Radio Pratique, au foyer du TJP Grande Seine à Strasbourg, vendredi 15 janvier 2021. Depuis début novembre, bien que le théâtre soit fermé au public, il reste un lieu de travail pour les artistes. Damien Bouvet, comédien, clown, fondateur de la compagnie Voix Off, et Yvan Grimbert, auteur et metteur en scène, sont ainsi venus en nos murs en décembre et cette semaine pour travailler et retravailler les spectacles L'Ange Passage et Le Passage de l'Ange. Damien Bouvet crée et interprète des spectacles centrés sur la mise en jeu du corps, le geste, la manipulation d'objets. Avec ou sans nez rouge, seul en scène, le clown parcourt les terrains des jeux de l'enfance et leur part d'ombre, de rêves, de rires et d'effroi. Damien, bonjour.
Bonjour.
Spectateurs et spectatrices du TJP, vous aurez peut-être eu la chance d'assister en 2007 au spectacle Le poids d'un fantôme, où tu excellais, Damien, à incarner des personnages enfantins et naïfs comme autant de présences du souvenir de ceux qui sont partis, et à dire l'importance des fantômes dont nous sommes faits. Après les spectres, mais peut-être en sont-ils, les anges. Un ange. Avec le passage de l'ange et l'ange passage, c'est un ange déchu que tu donnes chair. Avec Yvan Grimbert, qui nous rejoindra sur ce plateau, vous avez imaginé et mis en scène pour cet ange et sa chute deux solis cosmiques créés à un an d'intervalle, en octobre 2019 puis octobre 2020, mais conçus en miroir pour se nourrir l'un de l'autre. L'un s'adresse aux grands, l'autre à tout le monde dès 6 ans. Chères auditrices et auditeurs, dans l'attente que vous rencontriez l'ange, peut-être, un jour, nous avons souhaité vous rendre témoin d'une autre rencontre, une de celles dont Damien Bouvet nous a confié la curiosité très tôt dans la préparation de sa venue au TJP. Une conversation avec David Le Breton, anthropologue dont les écrits le touchent et le relient à sa pratique. David, bonjour. Tu es professeur de sociologie et d'anthropologie à l'Université de Strasbourg et membre du laboratoire Culture et Société en Europe au CNRS. Tes recherches portent sur les représentations du corps humain et l'analyse des comportements à risque. Tu as notamment travaillé et écrit sur la douleur, le silence et le visage. Sans en dire davantage maintenant, laissons démarrer le dialogue et la rencontre se faire entre un chercheur et un artiste, des artistes, comme nous aimons tant les provoquer au TJP. Au micro de Radio Pratique ce jour pour guider l'entretien, Thomas Flagel, journaliste culturel dont vous retrouverez les articles dans Poly, La Scène ou encore le magazine Théâtre. Bonjour Thomas.
Bonjour Emeline.
Je te laisse la parole tout de suite.
Merci. Alors Damien Bouvet, si tu as souhaité inviter à cette émission David Le Breton, c'est notamment parce que la lecture de son livre La saveur du monde, une anthropologie des sens, paru en 2006 aux éditions Métayer, a constitué une sorte de révélation pour toi. Tu dis même que pour un comédien, ce livre est un guide aussi important que peuvent l'être les écrits d'un certain Stanislavski.
Je crois que j'ai pas lu entièrement les textes de Stanislavski, pour être. Mais j'ai essayé de les lire à un moment donné. Et oui, quand j'ai lu La saveur du monde, Et j'en parle assez souvent. Je dis que c'est vraiment un matériau pour les comédiens, enfin pour tous les gens qui veulent s'intéresser au théâtre, parce qu'on parle définitivement de ce dont on a besoin pour faire du théâtre, c'est-à-dire les sens, les perceptions, la façon d'être au monde, le rapport du corps, de l'intérieur, l'intériorité, l'extériorité, etc. Et des choses toutes simples, comme je me souviens, je crois que c'est sur... est-ce que c'est... Je ne sais pas comment on appelle ça à l'arrière d'un livre. C'est,
la quatrième de couverture.
Voilà. Il est question, je crois, de la forêt. C'est-à-dire... c'est souvent ce qui me fait choisir un livre. Moi, je Saveur du monde, tiens, c'est étonnant. Et puis, je regarde à l'arrière et c'est, oui, une forêt, le petit pousset à sa forêt, le bûcheron à sa forêt, le pédophile à sa forêt, le voleur à sa forêt, le bandit à sa forêt. Et donc là, tout de suite, effectivement, je me suis dit, oui, on rentre sur scène, on peut jouer quelqu'un qui traverse une forêt et on est obligé de faire avec sa propre forêt, ses mémoires. Parce que le théâtre, c'est avant tout des mémoires. Et moi, j'ai commencé à faire du théâtre en faisant ce qu'ils appelaient du jeu dramatique. C'est-à-dire, c'était une pratique où il n'y avait pas de public. On venait, c'était à la MJC, à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, et on expérimentait, on devait ressentir, rejouer, ressentir le petit déjeuner du matin. Qui nous avait réveillés, comment on s'était sorti du lit, qu'est-ce qu'on avait bu, est-ce qu'il y avait du soleil ou pas, de la pluie. Et continuellement, c'était des choses comme ça. Et on n'était pas jugés, on les cherchait, on essayait de trouver la forme du bol, du petit déjeuner, enfin tout l'odeur de la maman, le papa qui est déjà parti au travail, etc. Et je crois que c'est la saveur du monde, c'est on est en plein dans cette matière là, et elle est partagée. J'ai lu plusieurs livres. De
David Le Breton, vous voulez dire.
De David Le Breton. Et c'est à chaque fois... moi, je lis peu, parce que j'ai eu un problème avec l'école. Je me suis mis tardivement à lire. Et bon, donc, la poésie, enfin, les textes courts, ça m'intéresse beaucoup, parce qu'on en lit peu, et ça nous, voilà, on en a pour la journée. Où je lis des choses que je ne comprends pas toujours. Bien, mais et ce qui est fabuleux dans les livres de David Le Breton, c'est que il y a tout le temps le dernier j'ai lu sur la marche, il y avait eu un autre juste des années avant, voilà. Et c'est pareil, c'est Nietzsche a dit, il y a tout le temps c'est comme un parapluie, ça peut s'ouvrir si on s'y intéresse, on peut et ça parle continuellement, je pense, du corps en fait. Et ça, je ne sais pas pourquoi je dis tout le temps ça, parce que je pense que moi, j'ai été, dès qu'on a commencé à m'apprendre à lire, c'était déterminant. La manière dont on m'a emmené dans les mots, je les adore les mots, mais en même temps, j'ai mis du temps à... on parlera d'Yvan. J'ai fait beaucoup de spectacles quasi sans texte. Y a quelque chose avec les mots. Ça longtemps et encore maintenant, des fois, c'est un corps étranger. Donc le corps, dans les écrits de David Le Breton, je retrouve toutes ces choses-là. Et ça parle beaucoup de corps, beaucoup de corps.
David, c'est un retour qu'on vous fait pas souvent, j'imagine. C'est étonnant pour vous qu'un comédien vous dise ça, ou finalement, vous comprenez tout à fait pourquoi.
Ben, c'est vrai que quand j'ai écrit La Saveur du Monde, je ne pensais pas du tout au théâtre. Mais en écoutant Damien, je me dis oui, c'est effectivement, c'est un livre qui peut s'inscrire au cœur de l'art du comédien, d'une certaine manière. Parce que comme l'a très bien dit Damien, je rappelle que exister, ça veut dire éprouver en permanence sensoriellement le monde qui nous entoure, à travers les yeux, à travers les oreilles, à travers la peau, à travers la bouche, les odeurs, etc. Et c'est vrai que peut-être... moi, j'aime beaucoup Stanislavski, en revanche. J'ai beaucoup lu, j'ai écrit sur le théâtre, d'ailleurs, dans mon livre « Les passions ordinaires, une anthropologie des émotions. Je prends l'exemple des comédiens pour démonter en quelque sorte les théories naturalistes, biologisantes, neuroscientifiques de l'émotion qui disent que c'est une histoire de neurones, de cerveau, etc., puis qu'il n'y aurait rien d'autre. Et je montre donc, en prenant notamment l'exemple des comédiens, qu'on peut éprouver, on peut faire accroire aux autres n'importe quel sentiment. C'est tout l'art du comédien, justement. Et le comédien qui n'éprouve pas du tout, évidemment, les sentiments qu'il joue. Donc j'écris aussi. Et puis, pour la petite histoire, mon professeur de sociologie quand j'étais jeune, c'était Jean Duvigneau, qui est l'un des très grands noms de l'histoire du théâtre, de la sociologie du théâtre. C'est l'auteur de la sociologie des ombres collectives. Les ombres collectives, c'est comme ça qu'il nomme le théâtre. Il y a un très beau texte qui s'appelle L'acteur aussi. Et puis, Jean Duvigneau a été un chroniqueur, un critique avec Roland Barthes, avec tous ces gens-là. C'est la même génération. Bon, ceci dit, Duvigneau ne nous parlait pas vraiment du théâtre dans les cours, mais en tous les cas, je pense que le goût du théâtre m'est resté. J'ai même écrit quelquefois pour le théâtre hein, quand je vivais à Tours, quand je faisais mes études, et puis dans les années qui ont suivi, parce que j'accompagnais une troupe de théâtre professionnelle. C'était la troupe de José Manuel Cano Lopez. Et donc plusieurs fois, j'ai écrit des textes. J'ai fait la dramaturgie du Voïsec aussi avec José. Voilà. Mais quand j'ai été nommé maître de conf à Strasbourg, j'ai malheureusement dû couper avec le théâtre. Et aussi, d'ailleurs, pour la petite histoire, les souvenirs me reviennent. La première fois que je suis venu à Strasbourg, c'était pour rencontrer Bernard Dort au TNS. Ça remonte à très très longtemps, mais je me souviens que l'un de mes textes qui avait été joué à Tours avait beaucoup intéressé Bernard Dort et il voulait en faire une lecture au TNS. Voilà, donc j'étais venu le voir. Il connaissait aussi d'ailleurs Duvigneau, donc on a passé une heure ensemble à dialoguer. Enfin voilà, tout ça c'est un peu là. C'est les à côté en quelque sorte d'un parcours personnel. Mais donc pour moi, dans les textes de Stanislavski par exemple, et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment. La sensorialité n'est pas mise en jeu. C'est plutôt l'émotion qui est. Une anthropologie des émotions qui est sollicitée. Alors que alors bien entendu, on pourrait dire, oui, mais à partir du moment où les émotions sont là, la sensorialité va d'une certaine manière s'ajuster à ces émotions. Mais ça, c'était, malgré tout, je pense que c'est dommage que on ne va pas réécrire l'histoire, parce que pour moi, Stanislavski, c'est un immense personnage, et c'est trop facile de reprocher à des auteurs d'il y a un siècle d'avoir loupé des trucs qui ne sont d'une évidence banale aujourd'hui, parce que dans ce cas-là... Oui,
quelle différence vous faites entre la sensation et l'émotion, du coup ? Vous pouvez préciser ça ?
Ah bah oui, c'est pas du tout le même registre, parce que l'émotion, c'est le rapport affectif qu'on a envers le monde, c'est-à-dire se sentir en harmonie ou en désaccord, en colère ou apaisé, etc. La sensorialité, c'est voir aujourd'hui la qualité du soleil, la beauté de la neige, etc. Mais c'est aussi entendre. Les sons sont complètement différents aujourd'hui, en effet, de ce qu'ils étaient les jours précédents, puisqu'ils sont plus feutrés. Puis de temps en temps, on entend la neige tomber. Les voitures qui passent ne font pas du tout le même bruit. Le rapport à l'espace est aussi complètement différent. Donc notre tactilité, en quelque sorte, est transformée. On a par exemple, quand on fait du vélo ou quand on marche, on est contraint parfois à essayer de contrer l'amorce d'une chute. Les odeurs ne sont pas les mêmes. Là, on peut dire qu'elles sont pas mal atténuées par le froid, par la neige. Puis j'oublie je ne sais quoi. Bon, en tous les cas, les sens sont là en permanence en jeu, mais en lien évidemment avec les émotions. On ne pourrait pas les détacher. La condition humaine en permanence, ce sont des émotions, des perceptions sensorielles, des mouvements. Enfin, on ne peut pas suspendre une seule de ces dimensions, sinon on perd la totalité de l'humain.
Vous parlez de la quatrième de couverture du livre tout à l'heure. Dessus, il est écrit « L'individu ne prend conscience de soi qu'à travers le sentir, il éprouve son existence par des résonances sensorielles et perceptives. » On pourrait remplacer le mot « individu » par « comédien » ? Ça marcherait tout à fait. Est-ce que vous, sur scène aussi, vous avez besoin de cette sensation pour nourrir vos monstres ?
Oui, parce que... Je me vois rentrer sur scène et simplement écouter, ça se voit. Enfin, si je me mets en écoute moi de cet espace dans lequel je rentre, c'est déjà une chose qui est même pas forcément jouée, puisque je me mets moi Damien j'écoute. C'est déjà une chose qui est perceptible de l'extérieur. C'est ce que comment dire. C'est pour ça que ce texte, moi, là, me nourrit. C'est parce que il parle, oui, de l'oreille, c'est les débuts de, par exemple, de spectacle. On revient à le fœtus, entend normalement avant de voir, est-ce qu'il dort, est-ce qu'il allait, mais il entend. Et puis après, il voit. Et cette chose-là, elle se reporte régulièrement sur une chose qui doit venir dans les spectacles. Ça grouille, et puis boum, on le voit. Donc c'est des principes qu'on peut apprendre dans un texte comme ça, qu'on peut digérer, et puis après recréer sur scène. Mettre l'oreille en avant par rapport à l'œil, quoi, par exemple.
Tu disais tout à l'heure que tu avais un rapport extrêmement problématique aux mots, ce qui est une chose un peu rare pour un comédien, en tout cas qu'on estime un peu rare. Quelqu'un qui a fait le conservatoire de Lyon, comme toi, est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient ?
J'en parlais juste à l'instant, c'est-à-dire je pense que le moment où on m'a dit « Damien, viens t'asseoir », et là, c'est, tu lis une voiture, une pipe, c'était... Il y avait des dessins, donc c'est encore là, ça allait, mais c'était déjà, j'étais assis, déjà on était dans mon dos, et je pense que l'apprentissage des mots, ils doivent, il faut la poésie par exemple, il faut être en jogging ou il faut bouger, on l'expérimente souvent des fois avec Yvan, c'est-à-dire qu'il y a des choses, elles partent du ventre et et longtemps, de plus en plus, moi, je commence à apprivoiser ces mots-là parce qu'il faut que je les malaxe pour qu'ils ressortent comme ça sans que je fasse exprès. Mais sinon, quand j'ai commencé à faire du théâtre, c'était les mots étaient en haut et tout le reste était en bas. Je peux pas expliquer. C'est un monde extérieur. J'avais pas besoin. Ou de la manière dont on m'a appris à lire et tout ça, c'était pas bien parti, quoi. Donc j'étais avant tout attiré par l'image, par les odeurs. Je pense que moi j'ai adoré manger. J'ai mangé comme un glouton et tout ça. J'aurais pu faire menuisier si on m'avait emmené. Mais c'était l'odeur du bois qui m'a emmené parce que je la rapportais peut-être à mon grand-père qui lui sentait le bois, etc. Donc j'aurais pu faire menuisier. Je voulais faire cuisinier aussi. C'est parce que mais tout ça a tardé et puis j'ai rencontré le théâtre heureusement parce que je crois que c'est là où je pense que je peux mieux m'épanouir, mais je crois que c'est pour plein d'enfants, c'est l'odeur qui va amener à trouver le métier de sa vie et rien d'autre. Je sais pas si je réponds bien à la question, mais c'est le nez, c'est moi j'ai scotché par exemple sur le texte de Geppetto et Pinocchio là, enfin puis sur les images que j'ai pu voir et tout ça, c'est quand je regardais une pièce de bois, un bout de chêne ou du buis, ou j'ai dit il y a dans ce morceau là il y a un Pinocchio et puis c'est ça, sans cette odeur, et c'est le nez qui il y a plein de métiers, je pense que c'est le nez qui emmène l'individu à devenir comédien ou parfumeur ou je sais pas. Mais
tu as longtemps fait des spectacles sans parole du coup, jusqu'à ce que tu rencontres Yvan Grammaire qui est là avec nous. Qu'est-ce que ces mots à lui t'ont apporté? Comment vous travaillez cela?
Alors Yvan, j'ai fait donc des spectacles sans texte, et puis régulièrement je lui disais de venir voir et tout ça, et puis un jour je voulais faire un spectacle, je lui dis est-ce que ça t'intéresse de faire la mise en scène, parce que j'ai eu le plaisir et l'avantage de travailler avec lui sur une proposition que lui portait, un spectacle qu'il mettait en scène, mais qui n'était pas du tout, aucun rapport avec ma compagnie, et j'ai aimé la façon dont sa présence en fait. La façon dont il était parmi les autres et comment il travaillait. Et alors donc régulièrement après ce travail, je suis allé le voir et puis non, c'est pas les objets, c'est pas trop ma tasse de thé, tatatata. Et puis après une fois, je suis allé le voir, il est venu voir un spectacle sur la mort qu'on jouait à Paris. Et puis il est venu, je dis bon écoute, là j'aimerais bien faire un travail sur un texte de Michaud, Mes propriétés. Puis il me dit, à un moment donné, il me dit, mais pourquoi Michaud ? Ben, je lui dis, est-ce que tu veux écrire ? Et puis on a fait il a écrit un texte qui s'appelle Ministre. Donc c'est devenu un spectacle sur la thématique du travail. Et c'était une douleur pour moi. Enfin, c'était une nécessité. Ce que j'expliquais l'autre soir, c'est que je faisais des spectacles sans texte et peu de gens m'en parlaient. J'avais pas peu de retours sur ce que j'étais en train de faire. Je joue beaucoup pour les enfants. Alors quand on baisse la tête pour saluer, il n'y a pas trop ce code-là chez les enfants, donc ils applaudissent pas. Donc on fait un spectacle, on baisse la tête, on sort. Puis on fait de ville en ville comme ça. Et donc c'est un peu, faut être. Alors de temps en temps, j'ai réussi à avoir une c'est plus rare maintenant, mais une critique comme ça dans le Progrès du côté de Lyon, enfin dans des. Et là, quelqu'un a vu. Quelqu'un a senti et quelqu'un sait écrire et il écrit. Et je dis, mais c'est ça que je veux faire. Et j'ai 3 papiers, peut-être, comme ça, où régulièrement je suis allé relire. J'ai dit, mais c'est ça que je veux devenir, c'est ça que je veux faire. Et pourquoi je suis en train de parler de ça, je ne sais pas.
Par rapport à Yvan ?
Ah oui. Et donc, Yvan, c'est voilà. Je, finalement, il a dit, oui, bah, je vais écrire quelque chose. Et on a fait ce spectacle sur la thématique du travail, qui est une thématique. Monstrueuse, enfin qui est et on s'est embarqué, on a joué surtout pour les camps de vacances CCAS, mm-hmm. Et là c'est magnifique parce que on est malmené comme c'est pas permis, une thématique sur le travail en plein mois de juillet à la montagne devant des gens qui sont KO parce qu'ils ont passé toutes les... c'était super. Et donc on a commencé à faire des spectacles en direction du jeune public et voilà, je vais laisser parler un peu Yvan mais il y a une sorte de friction il faut, je pense que moi, je vieillissant, je vais avoir tendance un peu à aller rencontrer des gens pour pas rester un petit peu. Enfin, il faut puiser dans son propre sillon, mais c'est les autres qui vous aident à aller vous connaître, à aller ailleurs aussi, etc. Donc, Yvan en fait partie grandement, quoi.
Avant qu'on parle du passage de l'ange, je dois quand même rappeler que l'oubli du texte, ou la problématique du texte, est au cœur de ce spectacle, puisque c'est quand même l'histoire d'un ange déchu, qui est déchu parce qu'il a oublié la mission et ce qu'il devait transmettre comme message. Donc ça, c'est quand même rigolo que ce soit au cœur de cette pièce-là.
Oui, oui, oui. Et c'est le cauchemar récurrent un peu de temps en temps, oui. Une fois dans un spectacle, le souverain fou que Yvan avait mis en scène, on devait arriver derrière le souverain qui était là de dos, les mains dans le dos, et qui s'appelait confession. Et on devait venir se confesser. Et alors je démarrais par dire je suis un boulevard circulaire. Et donc il y a, parce que c'était un texte d'Hervé Péjaudier, un texte magnifique, et donc je rentre. Et vraiment, c'est le papa qui attend, c'est l'autorité qui est de dos, comme ça, qui attend. Moi, j'étais menteur quand j'étais enfant, comme pas permis, donc cette situation, il fallait tout mettre sur la table, je connais à fond la caisse. Et donc, je suis arrivé, et je ne savais plus. Et là, j'en ai les frissons, mais je ne savais plus, et là, ça monte. Et le moment, je me suis dit, je sors. Le moment où j'ai fait comme ça, tac, c'est revenu. Et en sortant de scène, je suis allé m'excuser auprès de François Château, là, le comédien. Je lui ai dit, je suis désolé, j'avais un trou. Et il m'a dit, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver au théâtre. Ça continue, je pense, mais il faut savoir faire du hors-piste. Mais c'est vrai que c'est une des meilleures choses. C'est la discussion qu'on avait l'autre jour, c'est on est sur scène, on fait ce qu'on sait faire, mais il faut être. Et l'être, souvent, ben, il ne sait pas. Et c'est toute cette recherche-là qui est intéressante quand on veut travailler sur la thématique du clown.
François Château, il dit que les personnages qu'il incarne et le fait d'avoir plusieurs rôles en même temps, de devoir faire des italiennes, donc de se répéter le texte comme ça pour l'apprendre, le mémoriser, et continuer à le mémoriser sur plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est comme d'avoir une sorte d'alien au milieu du ventre qui vit en soi tout le temps et qui nous transforme. Vous avez ce rapport-là au texte aussi, sur des pièces qui tournent et dont vous devez vous remémorer le texte ?
Moi, je pense, je l'explique là aujourd'hui comme ça, je pense que l'alien, il n'y a pas de mots. mon alien, enfin, ou les aliens. Il n'y a pas, il n'y a que de la chair, il n'y a que du nerf, il n'y a que du... alors, les mots, bien sûr, mais les mots... Oui, j'ai un problème avec les mots, moi. Mais ils ne sont pas... au cœur de l'être, pour moi, il n'y a pas. Il y a une apnée, il y a des cris, il y a des... Mais ce n'est pas les mots qui... c'est plutôt le mouvement, la respiration, la pulsation qui est à l'intérieur du corps, enfin de l'alien permanent. Il doit se nourrir des mots, mais ce n'est pas les mots qui me font... qui me créent des aliens, quoi.
Pour que les auditeurs qui n'ont pas pu voir la pièce, du coup, se rendent un petit peu compte et un petit aperçu, on va diffuser le son d'une des cinq capsules qui avait été réalisée par Zoé Chantre avec l'équipe de la compagnie Voix Off au mois de décembre.
As-tu déjà vu un ange dragon te séduire ?
Le sale ange, le Satan, celui qui séduit tout le monde.
Alors, un peu à la manière d'une bête de scène, tu donnes corps et voix à un nombre de personnages, un dragon, un ange, une chauve-souris, même Dieu, tout en jouant à t'adresser directement au public, à la fois comme un monsieur loyal, un peu comme au cirque, ou un peu aussi comme un ange rebelle, bien décidé à monter un cabaret à plumes. C'est finalement assez bavard pour quelqu'un qui n'aime pas le texte.
C'est la faute d'Yvan. Oui, je pense que quand il y a une logorée ou quand il y en a trop, ça devient une sorte de corps d'enveloppement, mais aussi de corps. Quand ça surgit, ça prolifère, tout ça, c'est... souvent je suis happé, moi. Enfin, non, des fois, ça m'est arrivé, les gens qui parlent tout seuls dans la rue, enfin, les qui sont, ça sort, s'ils sont habités. Ils ont des pourtours comme ça autour d'eux, et tout ça, c'est... là, c'est... C'est plus des mots, à la limite. C'est là autour, ça sort. Mais ça, c'est jouissif. C'est grâce un peu au travail avec avec Ministre, je me suis aperçu que... Parce que j'étais entouré d'objets, lumière, son, et je me suis aperçu que les mots, c'était un remplacement, des remplaçants de ces choses-là, de ces objets dont je commence un peu à me défaire. Après, bah, c'est un autre, comment dire, il faut les entretenir, il faut, ce qu'on dit, faire des italiennes. C'est-à-dire, moi, je marche beaucoup et puis j'envoie le texte comme ça dans les chemins et régulièrement pour qu'il soit tout le temps en moi et que j'ai pas de difficulté pour pas que ça me rappelle l'école de venir restituer comme un élève, un bon élève, des mots. Voilà, il faut que ça devienne de plus en plus les miens, enfin, qui n'existent plus, qui sortent comme ça. Mais ça demande un spectacle. Pour être libéré comme ça, il faut beaucoup de temps. Parce que tant que cette étape n'est pas franchie, on fait un travail, enfin, je ne sais pas comment dire, on ne peut pas s'abandonner, on ne peut pas être là, puis laisser faire.
David Le Breton, nous étions tous les deux hier à une sorte de générale de ce spectacle. Il y a beaucoup de fragilité dans ses personnages à lui. Comment vous définiriez son rapport au mot à lui, du coup, dans cette optique-là de fragilité?
Oui. Bon, il y aurait plusieurs choses, pas mal de choses, disons même, à dire. D'abord, effectivement, la méfiance envers les mots, je pense qu'elle se traduit par le fait que Damien utilise énormément sa voix. C'est tout un art de la voix. Je suis très sensible à la voix et au visage, puisque ce sont deux des thématiques que j'ai abordées d'un point de vue anthropologique. Et le visage et la voix, d'ailleurs, sont les deux fondements même de notre identité, de notre sentiment d'identité. On se reconnaît à travers son visage, les autres nous reconnaissent aussi à travers notre visage, de même la voix. Parfois, au téléphone par exemple, on n'a pas besoin de dire qui l'on est, on dit c'est moi, et puis immédiatement l'autre nous reconnaît. Et la voix et le visage sont des espèces de nous accompagnent toute notre vie, de l'enfance à l'âge d'homme ou de femme, jusqu'à la grande vieillesse, on a quasiment la même voix et quasiment le même visage. Même quand on voit quelqu'un qui a 80 ans et qu'on voit son visage d'enfant, on dit mais c'est lui, c'est exactement lui, c'est exactement elle. On aurait du mal évidemment à théoriser ce genre de choses, mais c'est un sentiment extrêmement puissant. Donc le visage et la voix que tu utilises énormément, Damien, sont vraiment au cœur, sont sans doute une manière de se donner tout entier. Moi, ça m'a frappé dans les deux filages que j'ai vus, une manière d'être tout entier présent. Pas du tout. On peut penser que sans doute pour beaucoup de comédiens, leur rôle est une sorte d'avatar qu'ils endossent pendant une heure ou deux, et puis après ils rentrent chez eux, etc. Mais finalement, on voit l'apparence, entre guillemets, du comédien, même si là, c'est pas du tout une critique, évidemment, c'est ça, l'art du théâtre en même temps. Mais chez toi, Damien, il y a vraiment une exposition profonde de l'être, on pourrait dire quasiment, à travers justement cette mise en évidence du visage, et pas seulement du corps, même si le corps est omniprésent. D'ailleurs, quand tu nous expliques quelque chose, ça passe presque toujours à travers le corps. Mais la voix, et cette voix détachée de la parole aussi, est très parlante d'une certaine manière, dans le sens d'une fragilité, d'une prise de risque, sans doute d'une défense aussi, mais là, ça, c'est toi uniquement qui peux dire ça, parce que c'est un art du comédien assez spécifique, à mon avis, que tu mets en jeu.
D'accord. Oui, la voix, c'est quelque chose. C'est vrai qu'il y a des comédiens que j'adore, moi, enfin des comédiens, des gens qui sont décédés, qui avaient des voix pas possibles. Et c'est, je m'en inspire. Enfin, je pense beaucoup à eux parce que c'est à chaque fois, c'est des corps qui ont. Qui propose ces voix-là. C'est toujours des corps. Artaud avait une voix pas possible. Brasseur avait, le père avait une voix pas possible. Michel Simon. Enfin, ouais, ça me passionne, ça. Ça me passionne. Et donc, parce qu'on est proche après des voix comme ça, enfin, particulières. Enfin, et être à l'écoute de des voix, même pas forcément celles des comédiens. Ça raconte énormément sur le corps, sur le vécu des gens, sur comment ils sont dans le monde. Et ça, c'est comment dire, c'est petit à petit. Moi, je savais. J'ai fait donc un conservatoire de région à Lyon, et puis il y avait de la diction, il y avait du chant. Et puis, petit à petit, c'est le chant, en fait, en faisant un peu de chorale ou travaillant le chant, parce que c'est un plaisir particulier aussi. J'ai fait partie à un moment donné d'une chorale, on finissait 11h du soir, mais on ne touchait pas terre quand on sortait. Parce que c'est complètement euphorisant. Bon, après, mais je ne suis pas du tout chanteur et je ne suis pas du tout musicien. Mais c'est. En fait, j'ai l'impression que quand j'utilise une certaine voix, je suis proche de mon père. Parce que mon père, il avait c'était une grosse carcasse. Et quand il se mettait en colère, ça. C'était quelque chose, quoi. Et donc, voilà, c'est je vais du papa à la maman continuellement.
Le dragon, c'est votre père?
Non, c'est la petite voisine d'en face. Voilà, je me suis aperçu en fait de... puis après, je voudrais laisser parler un peu si Yvan et David.
Yvan qui fait nom de la tête. Hein, parce que
pardon
gens, on est à la radio, les gens ne voient pas, mais Yvan fait nom de la tête en souriant.
Je ne sais plus maintenant ce que je...
Je peux prendre le relais un instant, parce que je me dis, en t'écoutant, il y a voix et voix. Parce que là, tu as cité des exemples un peu antinomiques, d'une certaine manière. Il y aurait Michel Simon, Pierre Brasseur, d'un côté. Artaud, à mon avis, c'est un tout autre registre. Et là, on est beaucoup plus proche de toi. C'est-à-dire un art de la voix, notamment dans les dernières années de la vie d'Artaud. Cette fameuse conférence, je ne sais plus dans quel théâtre parisien, où il hurlait, il
criait. La Renaissance, je crois, de la Renaissance, il me semble.
C'est pas le nom que j'ai en tête, mais de toute façon, c'est un peu anecdotique.
On n'a pas les mêmes sources.
Non, on fonctionne tous les deux sur les mémoires. Mais... donc là, par contre, dans cette conférence, dans ces dernières années de sa vie, Artaud désarticule complètement sa voix. Il en joue. Et il est dans une souffrance, d'ailleurs, absolument terrible. Parce que là, Michel Simon, on ne peut pas dire qu'il a travaillé, entre guillemets, sa voix. Et ça m'évoque une anecdote, une émission que j'écoutais il y a quelques semaines d'Olivier Trapenard. Augustin Trapenard, c'était des archives, il interrogeait Delphine Seyrig. Et à un moment donné, je crois, Trapenard lui dit, bon, mais votre voix, je crois qu'il voulait dire votre voix de comédienne, de votre parcours plutôt. Et Delphine Seyrig l'a arrêté immédiatement, il dit, ah non, vous allez encore me poser des questions sur ma voix, j'en ai marre, etc. Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de comédiens qui peuvent être épinglés. Et là, évidemment, Delphine Seyrig, malheureusement, elle est un peu stéréotypée. Et vous voulez rappeler qu'elle était autre chose qu'une voix, qu'elle était aussi une comédienne, et qu'elle avait eu une carrière bien au-delà de Marguerite Duras ou d'autres, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que Michel Simon, que j'aime énormément, et faisait pas forcément un travail sur sa voix.
Non, pas du tout.
Il y avait une qualité de présence qui était là. Brasseur aussi, oui. Puis il y en aurait plein d'autres, même Gabin ou d'autres. Mais par contre, Artaud, ça, là, on est dans un autre registre. Oui.
Mais je crois aussi qu'indépendamment de la voix, il y a une certaine mise à nu dans le spectacle où il y a une exposition de beaucoup de personnages, et donc de toi, Damien, qui défie l'ordre chronologique de la narration, en fait. C'est-à-dire qu'avant qu'on retombe sur nos pattes avec cette histoire d'ange qui avait un message, qui n'arrive pas à le donner et qui veut s'émanciper de son rôle et avec une dimension très politique sur laquelle on reviendra après, il y a quand même une manière, là, de jouer à faire le chanteur, à présenter un cabaret, à nous montrer plein de personnages et plein de situations, tout un panel de ce que tu sais faire qui est entre l'exposition et la mise à nu.
Oui, c'est une chose, comment dire, moi je sais pas, c'est une chose que je comprends pas, je comprends par bribes, mais je ne maîtrise pas, c'est que les gens de l'extérieur, Yvan qui travaille avec moi, qui m'accompagne, qui me suit depuis un moment, le travail sur le clown, il est là, c'est-à-dire que... Il y a des fois, comment dire, il y a des fois où j'ai l'habitude de dire, moi, parce que j'ai la chance en direction du jeune public de jouer beaucoup, et c'est à force de jouer les spectacles qu'au bout d'un moment on arrive à s'absenter, et c'est là où on est le plus présent. Et le théâtre, il n'existe que parce qu'on le joue. C'est-à-dire, ce qu'il y a de plus terrible, c'est ce qui nous arrive là, c'est-à-dire là on joue, et si tout se passe mal, on va jouer en mai la prochaine fois ce spectacle. Et donc, on le voit au cirque, on le voit au cabaret. Enfin, c'est faire. Et il y a des moments où c'est délicat. Je ne sais pas, il y a des gens qui sont sans être plus pointus que moi pour en parler. Mais il y a une forme de... Je me suis aperçu souvent que moi, je n'étais pas là, d'une certaine façon, où j'étais... il y a la grosse bête qui bouge, qui fait. Et puis, c'est là où les gens me voient le plus. Alors que si je suis au même endroit et voulant regardez-moi, ça marche, c'est pas la même qualité de présence. Je lisais des choses sur le faut que je relise, je sais pas, mais il y a des enfin le fait d'entrer en scène souvent parle de un comédien normalement il embarque son absence, enfin il doit faire penser à son absence en même temps qu'il est présent. Donc c'est toutes ces choses là. Moi, je le vérifie souvent quand je vois un bébé. C'est pour moi, je pense à la mort, mais je ne peux pas... Un bébé, c'est tellement... ça happe tellement... c'est tellement quelque chose de spécial que... Il convoque la mort. Il y a la mort qui est là aussi. Je ne sais pas comment dire, cette vie-là, à son contraire, à son... Donc ça, je ne maîtrise pas du tout. Et c'est ce que je recherche. C'est ce qu'Yvan, des fois, il me pointe du doigt ou il m'emmène à tel ou tel endroit et il m'aide à... Mais sinon, je ferais tout seul si je savais... Je ne suis pas un animal, mais souvent, j'ai vraiment l'impression qu'on va m'emmener au pré ou me rentrer à l'étable, ou me sortir, me faire dégourdir les jambes, me ramener. Et puis ça me va bien. Parce qu'encore une fois, c'est qu'une histoire de une vache, elle se met au soleil quand elle a froid, elle se met à l'ombre quand elle a chaud. Et je ne suis pas une vache, mais c'est un peu... Je me considère un peu comme ça. Parce que je pense qu'avec la rencontre... ça ne peut pas... tout seul, c'est pas. On peut. Je pense pas qu'avoir. Qui a conscience de ça? C'est. Je sais pas. Peut-être Chaplin et encore. Je sais pas. Mais conscience de la totalité de ce qu'on est, de ce qu'on veut être, de ce qu'on désire être, de ce qu'on a été là dans l'instant, etc. Non, faut laisser. Je maîtrise pas vraiment. Je sais pas ce qui se passe. Quoi.
Est-ce que tu peux nous expliquer avec Yvan peut-être, Gambert. Vous disiez hier après le filage. Qu'au début de chaque création, vous réunissiez une sorte de magma d'objets, de matière, d'images, qui forment comme une énigme à résoudre. Comment ça démarre tout ça? Par exemple, la dimension politique de la pièce dont je parlais avant sur le travail... Et
politique
sur...
ou politique, je l'ai pas entendu.
Politique.
Politique.
Dont je parlais tout à l'heure sur le travail, avec cette plateforme d'ubérisation là, qui serait dirigée par Dieu et où les anges seraient des esclaves modernes comme on les connaît aujourd'hui pour les livreurs. Comment ça se forme?
Moi, personnellement, quand les choses qui m'ont beaucoup touché, tout ça, il y a une sorte d'intemporalité. C'est-à-dire Kazuo Ono ou des gens comme ça qui sont là, ils sont dans des... Ils parlent de choses où il n'y a pas de mots. Il y a du féminin, du masculin, il y a du passé, il y a du marin, il y a tout dedans et rien n'est... Moi, je suis plutôt dans ces... s'il y a du politique dans c'est l'imaginaire, c'est l'individu avant... Enfin, c'est surtout l'imaginaire, c'est surtout l'enfance. C'est-à-dire... c'est permettre à des enfants ou à des adultes de rester enfants le plus tard possible, enfin de ne jamais quitter cet état-là, et de faire en sorte que, que moi, je pense en tant qu'enfant, encore maintenant, je ne me positionne pas autrement, je sois face à des enfants et que je montre ce que j'ai toujours rêvé de faire. Et donc, c'est, alors par rapport au magma, c'est-à-dire là, pour moi, l'ange... C'était un peu comme les fantômes. Il y en a peu d'entre nous en ont vu en vrai. Donc c'était, il y avait un côté imagerie. Et pour moi, il y avait une possibilité de, encore une fois, de convoquer tous les corps, toutes les imageries. Et ce qui pour moi est l'Auguste là, j'en parlais hier des clowns et notamment de l'Auguste, c'est-à-dire c'est une sorte de monstruosité. Et pour moi, c'était le clown. Je disais le clown céleste, ou c'est le clown qui peut à un moment donné parler, avoir une bouche, parce qu'il a des ailes, parce qu'il a une finesse, il y a de l'esprit, mais voilà, si on descend plus vers les pattes, il y a du poil, il y a des ergots, c'était un corps premier comme ça, une chose qu'il faut après décortiquer et savoir qui va parler en premier, comment ça va. Tout ça va jouer.
Yvan ?
On voit bien, en écoutant Damien, combien les mots sont importants chez lui et dans sa façon d'imaginer. En général, quand on commence un travail, ça commence par des mots. Et ces mots, c'est ceux par lesquels Damien essaye de décrire ce qu'il voit ou des sensations, des choses comme ça, qui vont être le matériau de départ. En général, le matériau de départ, c'est lui qui l'apporte. Et je n'y comprends strictement rien. Par contre, c'est une sorte d'essaim d'images incroyablement riche. à partir desquels il faut commencer à travailler. Alors, les mots, en écoutant ce que disait Damien, je repensais à une chose qui m'avait frappé dans le début du livre « La saveur du monde » de David, quand il parle de l'espèce d'autorité qu'a le regard sur tous les autres sens. Et combien le regard nous impose, en fait, une certaine façon d'être au monde, dans le monde occidental et la culture occidentale. Et je pense que dans le rapport que Damien a au mot, il y a quelque chose qui a à voir avec ça, qui est le rapport au texte. En fait, ce n'est pas tellement les mots le problème que le texte écrit. Et en écoutant Damien tout à l'heure, il m'est revenu ce mot incroyable qui est au cœur de l'apprentissage de la langue à l'école, c'est l'orthographe. L'orthographe, c'est un mot assez terrifiant. Il faut apprendre à grapher droit. Et je pense que dans la difficulté que Damien a avec les mots ou le texte, il y a cette idée que le texte fait autorité. Et que s'il fait autorité, c'est un auteur qui empêche Damien de faire du théâtre. Et donc tout l'intérêt du travail qu'on fait ensemble, pour moi, c'est de revenir à un usage des mots qui soit plus près de la parole que du texte, qui soit plus près du corps que d'une injonction à dire et qu'à avoir avec l'histoire du théâtre, et l'histoire du théâtre en France, qui est une histoire qui est très centrée sur le texte. Il faut savoir que jusqu'en 1945, on apprenait le théâtre en France au conservatoire de musique dans un cours de déclamation. Le théâtre, c'était la déclamation. Le théâtre, ça commençait au niveau du cou et ça finissait au niveau de la tête, c'est-à-dire que c'était un art séparé du corps. Et là, ce que je trouve passionnant, c'est qu'il faut reconstruire un art de la parole qui part d'images, qui part de sensations, qui relie cette parole à des choses très organiques et à une ouverture de sensations. C'est vrai que le son est très important dans les spectacles qu'on fabrique avec Damien et qui fabrique, qu'on retrouve l'usage de la voix comme d'un organe qui à la fois chante, joue, râle, etc. C'est-à-dire ça renvoie à de la sensation. Donc c'est... tout ça, c'est un chantier. Ce qui est formidable, c'est que comme on ne part pas du texte et de l'idée, mais de sensations, mais d'un agglutinement imaginaire comme ça, eh ben, on est libéré d'un certain rapport aux mots, au texte et à la logique. Voilà sur le rapport à la parole et aux mots. La question politique. Je pense que c'est une chose que moi j'apporte dans ce travail, qui est d'avoir une lecture politique d'images qui ne le sont pas nécessairement au moment où Damien les apporte, mais parce que moi, je me pose des questions. Pourquoi on ne peut pas parler, qu'est-ce qui empêche d'où vient cet ange, pourquoi il tombe. Et souvent, ça se traduit par des sensations politiques plus qu'un discours politique. C'est un rapport politique au monde. C'est comment on est avec les autres, comment on est avec la question de l'autorité qui est tout le temps posée. Il parle de son père, de sa mère, etc. Ça devient Dieu, ça devient la petite chose, etc. Et donc le politique, aussi bien dans Ministre, par exemple, qui est déjà un rapport au divin, c'est que dans celui-là où on a cet ange abandonné, pourquoi